Jacques le fataliste et son maître, de Denis Diderot. Chapitre 7. L'hôtesse à Jacques. Il était écrit là-haut qu'au moment où l'on prend maître, on descendra, on montera, on avancera, on reculera, on restera, et cela sans qu'il soit jamais libre aux pieds de se refuser aux ordres de la tête. Qu'on me donne le bras, et que mon ordre s'accomplisse. Jacques donna le bras à l'hôtesse, mais à peine durent-ils passer le seuil de la chambre que le maître se précipita sur Jacques et l'embrassa, quitta Jacques pour embrasser l'hôtesse, et les embrassant l'un et l'autre, il disait « Il est écrit là-haut que je ne me déferai jamais de cet original-là, et que tant que je vivrai, il sera mon maître et que je serai son serviteur. » L'hôtesse ajouta « Et qu'à vue de pays, vous ne vous en trouverez pas plus mal tous deux. » L'hôtesse, après avoir apaisé cette querelle, qu'elle prit pour la première, et qui n'était pas la centième de la même espèce, et réinstallé Jacques à sa place, s'en alla à ses affaires, et le maître dit à Jacques, « À présent que nous voilà de sang-froid et en état de juger sainement, ne conviendras-tu pas ?»«
Je conviendrai que quand on a donné sa parole d'honneur, il faut la tenir. Et puisque nous avons promis au juge sur notre parole d'honneur de ne pas revenir sur cette affaire, qu'il n'en faut plus parler.
Tu as raison. »
« Mais sans revenir sur cette affaire, ne pourrions-nous pas en prévenir cent autres par quelque arrangement raisonnable ?»«
J'y consens. »
« Stipulons, premièrement, qu'attendu qu'il est écrit là-haut que je vous suis essentiel, et que je sens, que je sais que vous ne pouvez pas vous passer de moi, j'abuserai de ces avantages toutes et quantes fois que l'occasion s'en présentera. »
« Mais, Jacques, on n'a jamais rien stipulé de pareil. »
« Stipulé ou non stipulé, cela s'est fait de tous les temps, se fait aujourd'hui et se fera tant que le monde durera. Croyez-vous que les autres n'aient pas cherché comme vous à se soustraire à ce décret, et que vous serez plus habile qu'eux ? Défaites-vous de cette idée et soumettez-vous à la foi d'un besoin dont il n'est pas en votre pouvoir de vous affranchir. » « Stipulons, deuxièmement, qu'attendu qu'il est aussi impossible à Jacques de ne pas connaître son ascendant et sa force sur son maître, qu'à son maître de méconnaître sa faiblesse et de se dépouiller de son indulgence, il faut que Jacques soit insolent et que, pour la paix, son maître ne s'en aperçoive pas. Tout cela s'est arrangé à notre insu, tout cela fut scellé là-haut au moment où la nature fit Jacques et son maître. Il fut arrêté que vous auriez le titre et que j'aurais la chose. » Si vous vouliez vous opposer à la volonté de nature, vous n'y feriez que de l'eau claire.
Mais à ce compte, ton lot vaudrait mieux que le mien.
Qui vous le dispute?
Mais à ce compte, je n'ai qu'à prendre ta place et te mettre à la mienne.
Savez-vous ce qui en arriverait? Vous y perdriez le titre,
et vous n'auriez pas la chose. Restons comme nous sommes. Nous sommes fort bien tous deux. Et que le reste de votre vie soit employé à faire un proverbe.
Quel proverbe?
Jacques mène son maître. Nous serons les premiers dont on l'aura dit, mais on le répétera de mille autres qui valent mieux que vous et moi.
Cela me semble dur, très dur.
Mon maître, mon cher maître, vous allez regimber contre un aiguillon qui n'en piquera que plus vivement. Voilà donc qui est convenu entre nous.
Et que fait notre consentement à une loi nécessaire?
Beaucoup.
Croyez-vous qu'il soit inutile de savoir une bonne fois, nettement, clairement, à quoi s'en tenir?
Toutes nos querelles ne sont venues jusqu'à présent que parce que nous ne nous étions pas encore bien dit, vous, que vous vous appelleriez mon maître, et que c'est moi qui serai le vôtre. Mais voilà qui est entendu, et nous n'avons plus qu'à cheminer en conséquence.
Mais où diable as-tu appris tout cela?
Dans le grand livre. Ah, mon maître, on a beau réfléchir, méditer, étudier dans tous les livres du monde, on n'est jamais qu'un petit clerc quand on n'a pas lu dans le grand livre.
L'après-dîner, le soleil s'éclaircit. Quelques voyageurs assurèrent que le ruisseau était guéable. Jacques descendit, son maître paya l'hôtesse très largement. Voilà à la porte de l'auberge un assez grand nombre de passagers que le mauvais temps y avait retenus, se préparant à continuer leur route. Parmi ces passagers, Jacques et son maître, l'homme au mariage saugrenu et son compagnon. Les piétons ont pris leurs bâtons et leurs bissacs. D'autres s'arrangent dans leurs fourgons ou leurs voitures. Les cavaliers sont sur leurs chevaux et boivent le vin de l'étrier. L'hôtesse, affable, tient une bouteille à la main, présente des verres et les remplit sans oublier le sien. On lui dit des choses obligeantes, elle y répond avec politesse et gaieté. On pique des deux, on se salue et l'on s'éloigne. Il arriva que Jacques et son maître, le marquis des Arcis et son compagnon de voyage, avaient la même route à faire. De ces quatre personnages, il n'y a que ce dernier qui ne vous soit pas connu. Il avait à peine atteint l'âge de 22 ou 23 ans. Il était d'une timidité qui se peignait sur son visage. Il portait sa tête un peu penchée sur l'épaule gauche. Il était silencieux et n'avait presque aucun usage du monde. S'il faisait la révérence, il inclinait la partie supérieure de son corps sans remuer ses jambes. Assis, il avait le tic de prendre les basques de son habit et de les croiser sur ses cuisses, de tenir ses mains dans les fentes et d'écouter ceux qui parlaient, les yeux presque fermés. À cette allure singulière, Jacques le déchiffra, et s'approchant de l'oreille de son maître, il lui dit « Je gage que ce jeune homme a porté l'habit de moine. »
« Et pourquoi cela, Jacques ?»«
Vous verrez. » Nos quatre voyageurs allèrent de compagnie, s'entretenant de la pluie, du beau temps, de l'hôtesse, de l'hôte, de la querelle du marquis des Arcis au sujet de Nicole. Cette chienne affamée et malpropre venait sans cesse s'essuyer à ses bas. Après l'avoir inutilement chassée plusieurs fois avec sa serviette, d'impatience, il lui avait détaché un assez violent coup de pied. Et voilà tout de suite la conversation tournée sur cet attachement singulier des femmes pour les animaux. Chacun en dit son avis. Le maître de Jacques, s'adressant à Jacques, lui dit « Et toi, Jacques, qu'en penses-tu » Jacques demanda à son maître s'il n'avait pas remarqué que, quelle que fût la misère des petites gens, n'ayant pas de pain pour eux, ils avaient tous des chiens. S'il n'avait pas remarqué que ces chiens, étant tous instruits à faire des tours, à marcher à deux pattes, à danser, à rapporter, à sauter pour le roi, pour la reine, à faire le mort, cette éducation les avait rendus les plus malheureuses bêtes du monde. D'où il conclut que tout homme voulait commander à un autre, et que l'animal, se trouvant dans la société immédiatement au-dessous de la classe des derniers citoyens commandés par toutes les autres classes, il prenait un animal pour commander aussi à quelqu'un. « Eh bien, dit Jacques, chacun a son chien. Le ministre est le chien du roi, le premier commis est le chien du ministre, la femme est le chien du mari, ou le mari est le chien de la femme, Favori est le chien de celle-ci, et Thibaut est le chien de l'homme du coin. Lorsque mon maître me fait parler quand je voudrais me taire, ce qui, à la vérité, m'arrive rarement, continua Jacques, lorsqu'il me fait taire quand je voudrais parler, ce qui est très difficile, lorsqu'il me demande l'histoire de mes amours, et que j'aimerais mieux causer d'autre chose, lorsque j'ai commencé l'histoire de mes amours, et qu'il l'interrompt, que suis-je autre chose que son chien? Les hommes faibles sont les chiens des hommes fermes. Mais, Jacques, cet attachement pour les animaux, je ne le remarque pas seulement dans les petites gens. Je connais de grandes dames entourées d'une meute de chiens, sans compter les chats, les perroquets, les oiseaux. C'est leur satire et celle de ce qui les entoure. Elles n'aiment personne. Personne ne les aime. Et elles jettent aux chiens un sentiment dont elles ne savent que faire. Aimer les animaux ou jeter son cœur aux chiens, cela est singulièrement vu, dit le marquis des Arcis. Le maître dit, ce qu'on donne à ces animaux-là suffirait à la nourriture de 2 ou 3 malheureux. Et Jacques, à présent, en êtes-vous surpris?
Non, dit le maître.
Le marquis des Arcis tourna les yeux sur Jacques, sourit de ses idées, puis s'adressant à son maître, il lui dit, vous avez là un serviteur qui n'est pas ordinaire. Un serviteur, vous avez bien de la bonté, c'est moi qui suis le sien. Et peu s'en est fallu que ce matin, pas plus tard, il ne me l'ait prouvé en forme. Tout en causant, on arriva à la coucher, et l'on fit chambrée commune. Le maître de Jacques et le marquis des Arcis soupèrent ensemble. Jacques et le jeune homme furent servis à part. Le maître ébaucha en 4 mots au marquis l'histoire de Jacques et de son tour de tête fataliste. Le marquis parla du jeune homme qui le suivait. Il avait été prémontré. Il était sorti de sa maison par une aventure bizarre. Des amis le lui avaient recommandé, et il en avait fait son secrétaire en attendant mieux. Le maître de Jacques dit « Cela est plaisant !»« Et que trouvez-vous de plaisant à cela ?»« Je parle de Jacques. À peine sommes-nous entrés dans le logis que nous venons de quitter, que Jacques m'a dit à voix basse « Monsieur, regardez bien ce jeune homme, je gagerais qu'il a été moine. » Il a rencontré juste, je ne sais sur quoi.
Vous couchez-vous de bonne heure ?
Non, pas ordinairement, et ce soir j'en suis d'autant moins pressé que nous avons fait que demi-journée. Si vous n'avez rien qui vous occupe plus utilement ou plus agréablement, je vous raconterai l'histoire de mon secrétaire. Elle n'est pas commune. Je l'écouterai volontiers. Je vous entends, lecteur. Vous me dites « Et les amours de Jacques ?» Croyez-vous que je n'en suis pas aussi curieux que vous ? Avez-vous oublié que Jacques aimait à parler, et surtout à parler de lui ? Manie générale des gens de son état, manie qui les tire de leur abjection, qui les place dans la tribune et qui les transforme tout à coup en personnages intéressants. Quel est, à votre avis, le motif qui attire la populace aux exécutions publiques ? L'inhumanité ? Vous vous trompez. Le peuple n'est point inhumain. Ce malheureux autour de l'échafaud duquel il s'attroupe, il l'arracherait des mains de la justice s'il le pouvait. Il va chercher en grève une scène qu'il puisse raconter à son tour dans le faubourg. Celle-là ou une autre, cela lui est indifférent pourvu qu'il fasse un rôle, qu'il rassemble ses voisins, et qu'il s'en fasse écouter. Donnez au boulevard une fête amusante, et vous verrez que la place des exécutions sera vide. Le peuple est avide de spectacle, et y court, parce qu'il est amusé quand il en jouit, et qu'il est encore amusé par le récit qu'il en fait quand il en est revenu. Le peuple est terrible dans sa fureur, mais elle ne dure pas. Sa misère propre l'a rendu compatissant. Il détourne les yeux du spectacle d'horreur qu'il est allé chercher. Il s'attendrit, il s'en retourne en pleurant. Tout ce que je vous débite là, lecteur, je le tiens de Jacques, je vous l'avoue, parce que je n'aime pas à me faire honneur de l'esprit d'autrui. Jacques ne connaissait ni le nom de vice, ni le nom de vertu. Il prétendait qu'on était heureusement ou malheureusement né. Quand il entendait prononcer les mots « récompense » ou « châtiment », il haussait les épaules. Selon lui, la récompense était l'encouragement des bons, le châtiment, l'effroi des méchants. « Qu'est-ce autre chose, disait-il, s'il n'y a point de liberté, et que notre destinée soit écrite là-haut ? » Il croyait qu'un homme s'acheminait aussi nécessairement à la gloire ou à l'ignominie qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même suit la pente d'une montagne, et que, si l'enchaînement des causes et des effets qui forment la vie d'un homme depuis le premier instant de sa naissance jusqu'à son dernier soupir nous était connu, nous resterions convaincus qu'il n'a fait que ce qu'il était nécessaire de faire. Je l'ai plusieurs fois contredit, mais sans avantage et sans fruit. En effet, que répliquer à celui qui vous dit « Quelle que soit la somme des éléments dont je suis composé, je suis un. » Or, une cause n'a qu'un effet. J'ai toujours été une cause une. Je n'ai donc jamais eu qu'un effet à produire. Ma durée n'est donc qu'une suite d'effets nécessaires. C'est ainsi que Jacques raisonnait d'après son capitaine. La distinction d'un monde physique et d'un monde moral lui semblait vide de sens. Son capitaine lui avait fourré dans la tête toutes ses opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza qu'il savait par cœur. D'après ce système, on pourrait imaginer que Jacques ne se réjouissait, ne s'affligeait de rien. Cela n'était pourtant pas vrai. Il se conduisait à peu près comme vous et moi. Il remerciait son bienfaiteur pour qu'il lui fît encore du bien. Il se mettait en colère contre l'homme injuste, et quand on lui objectait qu'il ressemblait alors au chien qui mord la pierre qu'il a frappée, « Nenni, disait-il, la pierre mordue par le chien ne se corrige pas. L'homme injuste est modifié par le bâton. » Souvent il était inconséquent comme vous et moi, et sujet à oublier ses principes, excepté dans quelques circonstances où sa philosophie le dominait évidemment. C'était alors qu'il disait « Il fallait que cela, car cela était écrit là-haut. » Il tâchait à prévenir le mal. Il était prudent avec le plus grand mépris pour la prudence. Lorsque l'accident était arrivé, il en revenait à son refrain. Et il était consolé. Du reste, bon homme, franc, honnête, brave, attaché, fidèle, très têtu, encore plus bavard, et affligé comme vous et moi d'avoir commencé l'histoire de ses amours sans presque aucun espoir de la finir. Ainsi, je vous conseille, lecteur, de prendre votre parti, et, au défaut des amours de Jacques, de vous accommoder des aventures du secrétaire du marquis des Arcis. D'ailleurs, je le vois, ce pauvre Jacques, le cou entortillé d'un large mouchoir. Sa gourde, ci-devant pleine de bon vin, ne contenant que de la tisane, toussant, jurant contre l'hôtesse qu'ils ont quittée et contre son vin de champagne, ce qu'il ne ferait pas s'il s'en ressouvenait que tout est écrit là-haut, même son rhume. Et puis, lecteur, toujours des contes d'amour. 1, 2, 3, 4 contes d'amour que je vous ai faits. 3 ou 4 autres contes d'amour qui vous reviennent encore, ce sont beaucoup de contes d'amour. Il est vrai que d'un autre côté, puisqu'on écrit pour vous, il faut ou se passer de votre applaudissement, ou vous servir à votre goût, et que vous l'avez bien décidé pour les contes d'amour. Toutes vos nouvelles en vers ou en prose sont des contes d'amour. Presque tous vos poèmes, élégies, églogues, idylles, chansons, épîtres, comédies, tragédies, opéras sont des contes d'amour. Presque toutes vos peintures et vos sculptures ne sont que des contes d'amour. Vous êtes au compte d'amour pour toute nourriture depuis que vous existez, et vous ne vous en lassez point. L'on vous tient à ce régime et l'on vous y tiendra longtemps encore, hommes et femmes, grands et petits enfants, sans que vous vous en lassiez. En vérité, cela est merveilleux. Je voudrais que l'histoire du secrétaire du marquis des Arcis fût encore un compte d'amour, mais j'ai peur qu'il n'en soit rien, et que vous n'en soyez ennuyé. Tant pis pour le marquis des Arcis, pour le maître de Jacques, pour vous, lecteur, et pour moi. Il vient un moment où presque toutes les jeunes filles et les jeunes garçons tombent dans la mélancolie. Ils sont tourmentés d'une inquiétude vague qui se promène sur tout et qui ne trouve rien qui la calme. Ils cherchent la solitude, ils pleurent, le silence des cloîtres les touche. L'image de la paix qui semble régner dans les maisons religieuses les séduit. Ils prennent, pour la voix de Dieu qui les appelle à lui, les premiers efforts d'un tempérament qui se développe. Et c'est précisément lorsque la nature les sollicite qu'ils embrassent un genre de vie contraire aux vœux de la nature. L'erreur ne dure pas. L'expression de la nature devient plus claire, on la reconnaît, et l'être séquestré tombe dans les regrets, la langueur, les vapeurs, la folie ou le désespoir. Tel fut le préambule du marquis des Arcis. Dégoûté du monde à l'âge de 17 ans, Richard, c'est le nom de mon secrétaire, se sauva de la maison paternelle et prit l'habit de prémontré. De prémontré? Je lui en sais gré, ils sont blancs comme des cygnes, et Saint Norbert, qui les fonda, n'omit qu'une chose dans ses constitutions, d'assigner un vis-à-vis à chacun de ses religieux. Si ce n'était pas l'usage des amours d'aller tout nu, il se déguiserait en prémontré. Il règne dans cet ordre une politique singulière. On vous permet la duchesse, la marquise, la comtesse, la présidente, la conseillère, même la financière, mais point la bourgeoise. Quelque jolie que soit la marchande, vous verrez rarement un prémontré dans une boutique. C'est ce que Richard m'avait dit. Richard aurait fait ses vœux après 2 ans de noviciat si ses parents ne s'y étaient opposés. Son père exigea qu'il rentrerait dans la maison et que là, il lui serait permis d'éprouver sa vocation en observant toutes les règles de la vie monastique pendant 1 année. Traité qui fut fidèlement rempli de part et d'autre. L'année d'épreuve sous les yeux de sa famille écoulée, Richard demanda à faire ses vœux. Son père lui répondit « Je vous ai accordé 1 année pour prendre une dernière résolution. J'espère que vous ne m'en refuserez pas une pour la même chose. Je consens seulement que vous alliez la passer où il vous plaira. » En attendant la fin de ce second délai, l'abbé de l'ordre se l'attacha. C'est dans cet intervalle qu'il fut impliqué dans une des aventures qui n'arrivent que dans les couvents. Il y avait alors à la tête d'une des maisons de l'ordre un supérieur d'un caractère extraordinaire. Il s'appelait le père Hudson. Le père Hudson avait la figure la plus intéressante, un grand front, un visage ovale, un nez aquilin, de grands yeux bleus, de belles joues larges, une belle bouche, de belles dents, le sourire le plus fin, une tête couverte d'une forêt de cheveux blancs qui ajoutait la dignité à l'intérêt de sa figure. De l'esprit, des connaissances, de la gaieté, le maintien et le propos le plus honnête, l'amour de l'ordre, celui du travail. Mais les passions les plus fougueuses, mais le goût le plus effréné des plaisirs et des femmes, mais le génie de l'intrigue porté au dernier point, mais les mœurs les plus dissolues, mais le despotisme le plus absolu dans sa maison. Lorsqu'on lui en donna l'administration, elle était infectée d'un jansénisme ignorant. Les études s'y faisaient mal, les affaires temporelles étaient en désordre, les devoirs religieux y étaient tombés en désuétude, les offices divins s'y célébraient avec indécence, les logements superflus y étaient occupés par des pensionnaires dissolus. Le père Hudson convertit ou éloigna les jansénistes, présida lui-même aux études, rétablit le temporel, remit la règle en vigueur, expulsa les pensionnaires scandaleux, introduisit dans la célébration des offices la régularité et la bienséance, et fit de sa communauté une des plus édifiantes. Mais cette austérité à laquelle il assujettissait les autres, lui s'en dispensait, ce joug de fer sous lequel il tenait ses subalternes, il n'était pas assez dupe pour le partager. Aussi étaient-ils animés contre le père Hudson d'une fureur renfermée, qui n'en était que plus violente et plus dangereuse. Chacun était son ennemi et son espion, chacun s'occupait, en secret, à percer les ténèbres de sa conduite, chacun tenait un état séparé de ses désordres cachés, chacun avait résolu de le perdre. Et il ne faisait pas une démarche qui ne fût suivie, ses intrigues étaient à peine nouées qu'elles étaient connues. L'abbé de l'ordre avait une maison attenante au monastère. Cette maison avait deux portes, l'une qui s'ouvrait dans la rue, l'autre dans le cloître. Hudson en avait forcé les serrures. L'abbatiale était devenue le réduit de ses scènes nocturnes et le lit de l'abbé, celui de ses plaisirs. C'était par la porte de la rue, lorsque la nuit était avancée, qu'il introduisait lui-même dans les appartements de l'abbé des femmes de toutes les conditions. C'était là qu'on faisait des soupers délicats. Hudson avait un confessionnal, et il avait corrompu toutes celles d'entre ses pénitentes qui en valaient la peine. Parmi ses pénitentes, il y avait une petite confiseuse qui faisait bruit dans le quartier par sa coquetterie et ses charmes. Hudson, qui ne pouvait fréquenter chez elle, l'enferma dans son sérail. Cette espèce de rapt ne se fit pas sans donner des soupçons aux parents et à l'époux. Ils lui rendirent visite. Hudson les reçut avec un air consterné. Comme ces bonnes gens étaient en train de lui exposer leur chagrin, la cloche sonne. C'était à 6 heures du soir. Hudson leur impose silence, ôte son chapeau, se lève, fait un grand signe de croix et dit d'un ton affectué et pénétré « Angelus Domini, nuntia fit Marioe ». Et voilà le père de la confiseuse et ses frères, honteux de leurs soupçons, qui disaient, en descendant l'escalier, à l'époux « Mon fils, vous êtes un sot. Mon frère, n'avez-vous point de honte? Un homme qui dit l'Angelus? Un saint ?» Un soir, en hiver, qu'il s'en retournait à son couvent, il fut attaqué par une des créatures qui sollicitent les passants. Elle lui paraît jolie. Il la suit. À peine est-il entré que le guet survient. Cette aventure en aurait perdu un autre. Mais Hudson était un homme de tête, et cet accident lui concilia la bienveillance et la protection du magistrat de police. Conduit en sa présence, voici comme il lui parla. « Je m'appelle Hudson. Je suis le supérieur de ma maison. Quand j'y suis entré, tout était en désordre. Il n'y avait ni science, ni discipline, ni mœurs. Le spirituel y était négligé jusqu'au scandale. Le dégât du temporel menaçait la maison d'une ruine prochaine. J'ai tout rétabli. Mais je suis homme, et j'ai mieux aimé m'adresser à une femme corrompue que de m'adresser à une honnête femme. Vous pouvez à présent disposer de moi comme il vous plaira. » Le magistrat lui recommanda d'être plus circonspect à l'avenir, lui promit le secret sur cette aventure et lui témoigna le désir de le connaître plus intimement. Cependant, les ennemis dont il était environné avaient, chacun de leur côté, envoyé au général de l'ordre des mémoires, où ce qu'ils savaient de la mauvaise conduite d'Hudson était exposé. La confrontation de ces mémoires en augmentait la force. Le général était janséniste et par conséquent disposé à tirer vengeance de l'espèce de persécution qu'Hudson avait exercée contre les adhérents à ses opinions. Il aurait été enchanté d'étendre le reproche des mœurs corrompues d'un seul défenseur de la bulle et de la morale relâché sur la secte entière. il aurait été enchanté d'étendre le reproche des mœurs corrompues d'un seul défenseur de la bulle et de la morale relâchée sur la secte entière. En conséquence, il remit les différents mémoires des faits et gestes d'Hudson entre les mains de deux commissaires qu'il dépêcha secrètement avec ordre de procéder à leur vérification et de la constater juridiquement, leur enjoignant surtout de mettre à la conduite de cette affaire la plus grande circonspection, le seul moyen d'accabler subitement le coupable et de le soustraire à la protection de la cour et du mirepoix, aux yeux duquel le jansénisme était le plus grand de tous les crimes, et la soumission à la bulle Unigenitus, la première des vertus. Richard, mon secrétaire, fut un des deux commissaires. Voilà ces deux hommes partis du noviciat, installés dans la maison d'Hudson et procédant sourdement aux informations. Ils eurent bientôt recueilli une liste de plus de forfaits qu'il n'en fallait pour mettre 50 moines dans l'impace. Leur séjour avait été long, mais leur menée si adroite qu'il n'en était rien transpiré. Hudson, tout fin qu'il était, touchait au moment de sa perte qu'il n'en avait pas le moindre soupçon. Cependant, le peu d'attention de ces nouveaux venus à lui faire la cour, le secret de leur voyage, leur fréquente conférence avec les autres religieux, leur sortie tantôt ensemble, tantôt séparés, l'espèce de gens qu'ils visitaient et dont ils étaient visités, lui causèrent quelque inquiétude. Il les épia, il les fit épier. Et bientôt, l'objet de leur mission fut évident pour lui. Il ne se déconcerta point, il s'occupa profondément de la manière non d'échapper à l'orage qu'il menaçait, mais de l'attirer sur la tête des deux commissaires. Et voici le parti très extraordinaire auquel il s'arrêta. Il avait séduit une jeune fille qu'il tenait cachée dans un petit logement du faubourg Saint-Médard. Il court chez elle et lui tient le discours suivant. « Mon enfant, tout est découvert, nous sommes perdus. Avant 8 jours, vous serez renfermé, et j'ignore ce qu'il sera fait de moi. Point de désespoir, point de cri. Remettez-vous de votre trouble. Écoutez-moi, faites ce que je vous dirai, faites-le bien, je me charge du reste. Demain, je pars pour la campagne. Pendant mon absence, allez trouver 2 religieux que je vais vous nominer. » Et il lui nomma les 2 commissaires. « Demandez à leur parler en secret. » Seul avec eux, jetez-vous à leurs genoux, implorez leur secours, implorez leur justice, implorez leur médiation auprès du général, sur l'esprit duquel vous savez qu'ils peuvent beaucoup. Pleurez, sanglotez, arrachez-vous les cheveux, et en pleurant, sanglotant, vous arrachant les cheveux, racontez-leur toute notre histoire, et la racontez de la manière la plus propre à inspirer de la commisération pour vous, de l'horreur contre moi.
« Comment, monsieur, je leur dirai ?»
Oui, vous leur direz qui vous êtes, à qui vous appartenez, que je vous ai séduite au tribunal de la confession, enlevée d'entre les bras de vos parents et reléguée dans la maison où vous êtes. Dites qu'après vous avoir ravi l'honneur et précipité dans le crime, je vous ai abandonné à la misère. Dites que vous ne savez plus que devenir. Mais, père, exécutez ce que je vous prescris et ce qui me reste à vous prescrire, ou résolvez votre perte et la mienne. Ces 2 moines ne manqueront pas de vous plaindre, de vous assurer de leur assistance et de vous demander un second rendez-vous que vous leur accorderez. Ils s'informeront de vous et de vos parents, et comme vous ne leur aurez rien dit qui ne soit vrai, vous ne pouvez leur devenir suspecte. Après cette première et leur seconde entrevue, je vous prescrirai ce que vous aurez à faire à la 3e. Songez seulement à bien jouer votre rôle. Tout se passa comme Hudson l'avait imaginé. Il fit un second voyage. Les 2 commissaires en instruisirent la jeune fille. Elle revint dans la maison. Ils lui redemandèrent le récit de sa malheureuse histoire. Tandis qu'elle racontait à l'un, l'autre prenait des notes sur ses tablettes. Ils gémirent sur son sort, l'instruisirent de la désolation de ses parents, qui n'était que trop réelle, et lui promirent sûreté pour sa personne et prompte vengeance de son séducteur, mais à la condition qu'elle signerait sa déclaration. Cette proposition parut d'abord la révolter. On insista, elle consentit. Il n'était plus question que du jour, de l'heure et de l'endroit où se dresserait cet acte qui demandait du temps et de la commodité. Où nous sommes, cela ne se peut. Si le prieur revenait et qu'il m'aperçût, chez moi je n'oserais vous le proposer. Cette fille et les commissaires se séparèrent, s'accordant réciproquement du temps pour lever ces difficultés. Dès le jour même, Hudson fut informé de ce qui s'était passé. Le voilà au comble de la joie, il touche au moment de son triomphe. Bientôt il apprendra à ces blancs becs-là à quel homme ils ont affaire. Prenez la plume, dit-il à la jeune fille, et donnez-leur rendez-vous dans l'endroit que je vais vous indiquer. Ce rendez-vous leur conviendra, j'en suis sûr. La maison est honnête et la femme qui l'occupe jouit dans son voisinage et parmi les autres locataires de la meilleure réputation. Cette femme était cependant une de ces intrigantes secrètes qui jouent la dévotion, qui s'insinuent dans les meilleures maisons, qui ont le don doux, affectueux, patelin, et qui surprennent la confiance des mères et des filles pour les amener au désordre. C'était l'usage qu'Hudson faisait de celle-ci. C'était sa marcheuse. Mit-il, ne mit-il pas l'intrigante dans son secret? C'est ce que j'ignore. En effet, les deux envoyés du général acceptent le rendez-vous. Les y voilà avec la jeune fille. L'intrigante se retire. On commençait à verbaliser lorsqu'il se fait un grand bruit dans la maison. « Messieurs, à qui en voulez-vous? Nous en voulons à la dame Simeon. » C'était le nom de l'intrigante. « Vous êtes à sa porte. » On frappe violemment à la porte. « Messieurs, dit la jeune fille aux deux religieux, répondrai-je? Répondez, ouvrirai-je? Ouvrez !» Celui qui parlait ainsi était un commissaire avec lequel Hudson était en liaison intime, car qui ne connaissait-il pas? Il lui avait révélé son péril et dicté son rôle. « Ah ah !» dit le commissaire en entrant. « Deux religieux en tête-à-tête avec une fille! Elle n'est pas mal !» La jeune fille s'était si indécemment vêtue qu'il était impossible de se méprendre à son état et à ce qu'elle pouvait avoir à démêler avec deux moines dont le plus âgé n'avait pas 30 ans. Ceux-ci protestaient de leur innocence. Le commissaire ricanait en passant la main sous le menton de la jeune fille qui s'était jetée à ses pieds et qui demandait grâce. « Nous sommes en lieu honnête, » disaient les moines. « Oui, oui, en lieu honnête, » disait le commissaire. « Qu'ils étaient venus pour affaire importante. L'affaire importante qui conduit ici, nous la connaissons. Mademoiselle, parlez. »«
Monsieur le commissaire, ce que ces messieurs vous assurent est la pure vérité. »
Cependant, le commissaire verbalisait à son tour, et comme il n'y avait rien dans son procès-verbal que l'exposition pure et simple du fait, les deux moines furent obligés de signer. En descendant, ils trouvèrent tous les locataires sur les paliers de leurs appartements, à la porte de la maison une populace nombreuse, un fiacre, des archers qui les mirent dans le fiacre, au bruit confus de l'invective et des huées. Ils s'étaient couverts le visage de leur manteau, ils se désolaient. Le commissaire perfide s'écriait « Eh, pourquoi mes pères fréquentaient ces endroits et ces créatures-là ? Cependant, ce ne sera rien. J'ai ordre de la police de vous déposer entre les mains de votre supérieur, qui est un galant homme indulgent. Il ne mettra pas à cela plus d'importance que cela ne vaut. Je ne crois pas qu'on use dans vos maisons comme chez les cruels capucins. Si vous aviez affaire à des capucins, ma foi, je vous plaindrais !» Tandis que le commissaire leur parlait, le fiacre s'acheminait vers le couvent, la foule grossissait, l'entourait, le précédait, et le suivait à toutes jambes. On entendait ici « Qu'est-ce ? Là, ce sont des moines. Qu'ont-ils fait ? On les a pris chez des filles. Des prémontrés chez des filles ! Eh oui, ils courent sur les brisées des carmes et des cordeliers !» Les voilà arrivés. Frappe à la porte, frappe encore, frappe une troisième fois. Enfin, elle s'ouvre. On avertit le supérieur Hudson, qui se fait attendre une demi-heure au moins, afin de donner au scandale tout son éclat. Il paraît enfin. Le commissaire lui parle à l'oreille. Le commissaire a l'air d'intercéder. Hudson de rejeter rudement sa prière. Enfin, celui-ci, prenant un visage sévère et un ton ferme, lui dit « Je n'ai point de religieux dissolus dans ma maison. Ces gens-là sont deux étrangers qui me sont inconnus. Peut-être deux coquins déguisés dont vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaira. » À ces mots, la porte se ferme. Le commissaire remonte dans la voiture et dit à nos deux pauvres diables plus morts que vifs « J'y ai fait tout ce que j'ai pu. Je n'aurais jamais cru le père Hudson si dur. Aussi, pourquoi diable aller chez des filles ? Si celle avec laquelle vous nous avez trouvés en est une, ce n'est point le libertinage qui nous a menés chez elle. » « Ah, 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 mes pères! Et c'est à un vieux commissaire que vous dites cela. Qui êtes-vous ?
Nous sommes religieux, et l'habit que nous portons est le nôtre. »
« Oui, songez que demain il faudra que votre affaire s'éclaircisse. Parlez-moi vrai. Je puis peut-être vous servir. »
« Nous vous avons dit vrai ? Mais où allons-nous ?
Au Petit Châtelet. »
« Au Petit Châtelet ? En prison ?
Je suis désolé.
Ce fut en effet là que Richard et son compagnon furent déposés. Mais le dessein d'Hudson n'était pas de les y laisser. Il était monté en chaise de poste, il était arrivé à Versailles. Il parlait au ministre. Il lui traduisait cette affaire comme il lui convenait. « Voilà, monseigneur, à quoi l'on s'expose lorsqu'on introduit la réforme dans une maison dissolue et qu'on en chasse les hérétiques. Un moment plus tard, j'étais perdu, j'étais déshonoré. La persécution n'en restera pas là. Toutes les horreurs dont il est possible de noircir un homme de bien, vous les entendrez. Mais j'espère, monseigneur, que vous vous rappellerez que notre général... je sais, et je vous plains, les services que vous avez rendus à l'Église et à votre ordre ne seront point oubliés. Les élus du Seigneur ont de tous les temps été exposés à des disgrâces. Ils ont su les supporter. Il faut savoir imiter leur courage. Comptez sur les bienfaits et la protection du roi. Les moines, les moines! Je l'ai été et j'ai connu par expérience ce dont ils sont capables. Si le bonheur de l'Église et de l'État voulait que votre éminence me survécût, je persévérerais sans crainte. Je ne tarderai pas à vous tirer de là. Allez. Non, monseigneur, non, je ne m'éloignerai pas sans un ordre exprès qui délivre ces deux mauvais religieux. Je crois que l'honneur de la religion et de votre habit vous touche au point d'oublier des injures personnelles. Cela est tout à fait chrétien et j'en suis édifié sans être surpris d'un homme tel que vous. Cette affaire n'aura point d'éclat. Ah, monseigneur, vous comblez mon âme de joie. Dans ce moment, c'est tout ce que je redoutais. Je vais travailler à cela. »
Dès le soir même, Hudson eut l'ordre d'élargissement, et le lendemain, Richard et son compagnon, dès la pointe du jour, étaient à 20 lieues de Paris sous la conduite d'un exempt qui les remit dans la maison professe. Il était aussi porteur d'une lettre qui enjoignait au général de cesser de pareille menée et d'imposer la peine claustrale à nos deux religieux.
Cette aventure jeta la consternation parmi les ennemis d'Hudson. Il n'y avait pas un moine dans sa maison que son regard ne fît trembler. Quelques mois après, il fut pourvu d'une riche abbaye. Le général en conçut un dépit mortel. Il était vieux, et il y avait tout à craindre que l'abbé Hudson ne lui succédât. Il aimait tendrement Richard. « Mon pauvre ami, lui dit-il un jour, que deviendrais-tu si tu tombais sous l'autorité du scélérat Hudson? J'en suis effrayé. Tu n'es point engagé. Si tu m'en croyais, tu quitterais l'habit. » Richard suivit ce conseil et revint dans la maison paternelle, qui n'était pas éloignée de l'abbaye possédée par Hudson. Hudson et Richard fréquentant les mêmes maisons, il était impossible qu'ils ne se rencontrassent pas, et en effet, ils se rencontrèrent. Richard était un jour chez la dame d'un château situé entre Châlons et Saint-Dizier, mais plus près de Saint-Dizier que de Châlons, et à une portée de fusil de l'abbaye d'Hudson. La dame lui dit « Nous avons ici votre ancien prieur. Il est très aimable, mais au fond, quel homme est-ce ? » Le meilleur des amis est le plus dangereux des ennemis. Est-ce que vous ne seriez pas tenté de le voir ?
Nullement.
À peine eut-il fait cette réponse qu'on entendit le bruit d'un cabriolet qui entrait dans les cours et qu'on en vit descendre Hudson avec une des plus belles femmes du canton. « Vous le verrez malgré que vous en ayez, lui dit la dame du château, car c'est lui. »
La dame du château et Richard vont au-devant de la dame du cabriolet et de l'abbé Hudson. Les dames s'embrassent. Hudson, en s'approchant de Richard et le reconnaissant, s'écrie « Hé, c'est vous, mon cher Richard ! Vous avez voulu me perdre, je vous le pardonne. Pardonnez-moi votre visite au petit Châtelet, et n'y pensons plus. Convenez, monsieur l'abbé, que vous étiez un grand vaurien. Cela se peut. Que si l'on vous avait rendu justice, la visite au Châtelet, ce n'est pas moi, c'est vous qui l'auriez faite. Cela se peut. C'est, je crois, au péril que je courus alors que je dois à mes nouvelles mœurs. Ah, mon cher Richard, combien cela m'a fait réfléchir et que je suis changé. Cette femme avec laquelle vous êtes venue est charmante. Je n'ai plus Dieu pour ces attraits-là.
Quelle taille!
Cela m'est devenu bien indifférent.
Quel embonpoint!
On revient tôt ou tard d'un plaisir qu'on ne prend que sur le fait d'un toit, au péril à chaque mouvement de se rompre le cou. Elle a les plus belles mains du monde. J'ai renoncé à l'usage de ces mains-là. Une tête bien faite revient à l'esprit de son état, au seul vrai bonheur.
Et ces yeux qu'elle tourne sur vous à la dérobée, convenez que vous, qui êtes connaisseur, vous n'en avez guère attaché de plus brillant et de plus doux. Quelle grâce, quelle légèreté et quelle noblesse dans sa démarche, dans son maintien. Je ne pense plus à ses vanités. Je lis l'écriture. Je médite les pères.
Et de temps en temps les perfections de cette dame.
Demeure-t-elle loin de Monsets? Son époux est-il jeune?
Hudson, impatienté de ces questions et bien convaincu que Richard ne le prendrait pas pour un saint, lui dit brusquement
« Mon cher Richard, vous vous foutez de moi, et vous avez raison. »
Mon cher lecteur, pardonnez-moi la propriété de cette expression, et convenez qu'ici, comme dans une infinité de bons contes, tels par exemple que celui de la conversation de Piron et de feu l'abbé Vatry, le mot « honnête » gâterait tout. Qu'est-ce que c'est que cette conversation de Piron et de l'abbé Vatry? Allez la demander à l'éditeur de ces ouvrages, qui n'a pas osé l'écrire, mais qui ne se fera pas tirer l'oreille pour vous la dire. Nos quatre personnages se joignirent au château. On dîna bien, on dîna gaiement, et sur le soir on se sépara avec promesse de se revoir. Mais, tandis que le marquis des Arcis causait avec le maître de Jacques, Jacques, de son côté, n'était pas muet avec monsieur le secrétaire Richard, qui le trouvait un franc original, ce qui arriverait plus souvent parmi les hommes si l'éducation, d'abord, ensuite le grand usage du monde, ne les usait comme ces pièces d'argent qui, à force de circuler, perdent leur empreinte. Il était tard, la pendule avertit les maîtres et les valets qu'il était l'heure de se reposer, et ils suivirent son avis. Jacques, en déshabillant son maître, lui dit « Monsieur, aimez-vous les tableaux ?»«
Oui, mais en récit, car en couleur et sur la toile, quoique j'en juge aussi décidément qu'un amateur, je t'avouerai que je n'y entends rien du tout, que je serais bien embarrassé de distinguer une école d'une autre, qu'on me donnerait un Boucher pour un Rubens ou pour un Raphaël, que je prendrais une mauvaise copie pour un sublime original. » Que j'apprécierais 1000 écus une croûte de 6 francs, et 6 francs un morceau de 1000 écus, et que je ne me suis jamais pourvu qu'au pont Notre-Dame chez un certain Tremblin, qui était de mon temps la ressource de la misère ou du libertinage et la ruine du talent des jeunes élèves de Vanloo.
Et comment cela?
Qu'est-ce que cela te fait? Raconte-moi ton tableau, et sois bref, car je tombe de sommeil.
Placez-vous devant la fontaine des Innocents ou proche la porte Saint-Denis. Ce sont deux accessoires qui enrichiront la composition.
M'y voilà.
Voyez au milieu de la rue un fiacre, la soupente cassée et renversée sur le côté.
Je le vois.
Un moine et 2 filles en sont sortis. Le moine s'enfuit à toutes jambes, le cocher se hâte de descendre de son siège, un caniche du fiacre s'est mis à la poursuite du moine et l'a saisi par sa jaquette. Le moine fait tous ses efforts pour se débarrasser du chien. Une des filles, débraillée, la gorge découverte, se tient les côtés à force de rire. L'autre fille, qui s'est faite une bosse au front, est appuyée contre la portière et se presse la tête à 2 mains. Cependant, la populace s'est attroupée, les polices sont à court et poussent des cris, les marchands et les marchandes ont bordé le seuil de leur boutique, et d'autres spectateurs sont à leur fenêtre.
Comment, diable, Jacques, ta composition est bien ordonnée, riche, plaisante, variée et pleine de mouvements. À notre retour à Paris, porte ce sujet à Fragonard, et tu verras ce qu'il en saura faire.
Après ce que vous m'avez confessé de vos lumières en peinture, je puis accepter votre éloge sans baisser les yeux.
Je gage que c'est une des aventures de l'abbé Hudson.
Il est vrai. Lecteur, tandis que ces bonnes gens dorment, j'aurais une petite question à vous proposer à discuter sur votre oreiller. C'est ce qu'aurait été l'enfant né de l'abbé Hudson et de la dame de la Pommeraye. Peut-être un honnête homme. Peut-être un sublime coquin.
Vous me direz cela demain matin.
Ce matin, le voilà venu, et nos voyageurs séparés, car le marquis des Arcis ne suivait plus la même route que Jacques et son maître.
Nous allons donc reprendre la suite des amours de Jacques?
Je l'espère. Mais ce qu'il y a de bien certain, c'est que le maître sait l'heure qu'il est, qu'il a pris sa prise de tabac, et qu'il a dit à Jacques
« Eh bien, Jacques, tes amours !»
Jacques, au lieu de répondre à cette question, disait « N'est-ce pas le diable ?» Du matin au soir, ils disent du mal de la vie, et ils ne peuvent se résoudre à la quitter. Serait-ce que la vie présente n'est pas à tout prendre une si mauvaise chose, ou qu'ils en craignent une pire à venir?
C'est l'un et l'autre. À propos, Jacques, crois-tu à la vie à venir?
Je n'y crois ni décrois, je n'y pense pas.
je jouis de mon mieux de celle qui nous a été accordée en avancement d'Oiry. Pour moi, je me regarde comme en chrysalide, et j'aime à me persuader que le papillon ou mon âme, venant un jour à percer sa coque, s'envolera à la justice divine.
Votre image est charmante.
Elle n'est pas de moi, je l'ai lue, je crois, dans un poète italien appelé Dante, qui a fait un ouvrage intitulé « La comédie de l'enfer, du purgatoire et du paradis ». Voilà un singulier sujet de comédie. Il y a, par Dieu, de belles choses, surtout dans son enfer. Il enferme les hérésiarques dans des tombeaux de feu, dont la flamme s'échappe et porte le ravage au loin. Les ingrats dans des niches où ils versent des larmes qui se glacent sur leur visage, et les paresseux dans d'autres niches. Et il dit de ces derniers que le sang s'échappe de leurs veines et qu'il est recueilli par des vers dédaigneux. Mais à quel propos t'as sorti contre notre mépris d'une vie que nous craignons de perdre? À propos de ce que le secrétaire du marquis des Arcis m'a raconté du mari de la jolie femme au cabriolet. Elle est veuve. Elle a perdu son mari dans un voyage qu'elle a fait à Paris. Et le diable d'homme ne voulait pas entendre parler des sacrements. Ce fut la dame du château où Richard rencontra l'abbé Hudson qu'on chargea de le réconcilier avec le béguin. Que veux-tu dire avec ton béguin? Le béguin est la coiffure qu'on met aux enfants nouveau-nés. Ah, je t'entends. Et comment s'y prit-elle pour l'embéguiner? On fit cercle autour du feu. Le médecin, après avoir tâté le pouls du malade qu'il trouva bien bas, vint s'asseoir aux côtés des autres. La dame dont il s'agit s'approcha de son lit et lui fit plusieurs questions, mais sans élever la voix plus qu'il ne le fallait pour que cet homme ne perdît pas un mot de ce qu'on avait à lui faire entendre. Après quoi la conversation s'engagea entre la dame, le docteur et quelques-uns des autres assistants, comme je vais vous la rendre. La dame. « Eh bien, docteur, nous direz-vous des nouvelles de Madame de Parme ?» Le docteur. « Je sors d'une maison où l'on m'a assuré qu'elle était si mal qu'on n'en espérait plus rien. » La dame. « Cette princesse a toujours donné des marques de piété. Aussitôt qu'elle s'est sentie en danger, elle a demandé à se confesser et à recevoir ses sacrements. » Le docteur. « Le curé de Saint-Roch lui porte aujourd'hui une relique à Versailles, mais elle arrivera trop tard. » La dame. Madame Infante n'est pas la seule qui donne de ces exemples. Monsieur le duc de Chevreuse, qui a été bien malade, n'a pas attendu qu'on lui proposât les sacrements, il les a appelés de lui-même, ce qui a fait grand plaisir à sa famille. Le docteur, il est beaucoup mieux. Un des assistants, il est certain que cela ne fait pas mourir, au contraire. La dame, en vérité, dès qu'il y a du danger, on devrait satisfaire à ces devoirs-là. Les malades ne conçoivent pas apparemment combien il est dur pour ceux qui les entourent, et combien cependant il est indispensable de leur en faire la proposition. Le docteur. Je sors de chez un malade qui me dit il y a 2 jours, « Docteur, comment me trouvez-vous ? » Monsieur, la fièvre est forte et les redoublements fréquents. Mais croyez-vous qu'il en survienne un bientôt ? Non, je le crains seulement pour ce soir. Cela étant, je vais faire avertir un certain homme avec lequel j'ai une petite affaire particulière, afin de la terminer pendant que j'ai encore toute ma tête. » Il se confessa, il reçut tous ses sacrements. Je revins le soir, point de redoublement. Hier, il était mieux. Aujourd'hui, il est hors d'affaire. J'ai vu beaucoup de fois dans le courant de ma pratique ces effets-là des sacrements. Le malade à son domestique. « Apportez-moi mon poulet !» Jacques. On le lui serre, il veut le couper et n'en a pas la force. On lui en dépèce l'aile en petits morceaux. Il demande du vin, se jette dessus, fait des efforts pour en mâcher une bouchée qu'il ne saurait avaler et qu'il rend dans sa serviette. Il demande du vin pur. Il y mouille les bords de ses lèvres et dit « Je me porte bien ». Oui, mais une demi-heure après, il n'était plus. Le maître. Cette dame s'y était pourtant assez bien prise. Et tes amours? Et la condition que vous avez acceptée? Oh, j'entends. Tu es installé au château de Daixgland, et la vieille commissionnaire Jeanne a ordonné à sa jeune fille Denise de te visiter 4 fois le jour et de te soigner. Mais avant que d'aller en avant, dis-moi, Denise avait-elle son pucelage? Je le crois. Et toi?
Le mien, il y avait beau jour qu'il courait les champs.
Tu n'en étais donc pas à tes premières amours?
Pourquoi donc?
C'est qu'on aime celle à qui on le donne, comme on est aimé de celle à qui on le ravit.
Quelquefois oui, quelquefois non.
Et comment le perdis-tu ?
Je ne le perdis pas, je le troquai bel et bien.
Dis-moi un mot de ce troc-là.
Ce sera le premier chapitre de Saint-Luc, une kyrielle de génouites à ne point finir, depuis la première jusqu'à Denise la dernière.
Qui crut la voir et qui ne l'eut point ?
Et avant Denise, les deux voisines de notre chaumière.
Qui crurent la voir et qui ne l'eurent point ?
Non. Manquer un pucelage à deux, cela n'est pas trop adroit.
Tenez, mon maître, je devine au coin de votre lèvre droite qui se relève et à votre narine gauche qui se crispe, qu'il vaut autant que je fasse la chose de bonne grâce que d'en être prié, d'autant que je sens augmenter mon mal de gorge, que la suite de mes amours sera longue et que je n'ai guère de courage pour un ou deux petits comptes.
Si Jacques voulait me faire un grand plaisir,
comment s'y prendrait-il ?
Il débuterait par la perte de son pucelage.
Veux-tu que je te le dise, j'ai toujours été friand du récit de ce grand événement.
Et pourquoi, s'il vous plaît ?
C'est que, de tous ceux du même genre, c'est le seul qui soit piquant. Les autres n'en sont que d'insipides et communes répétitions. De tous les péchés d'une jolie pénitente, je suis sûr que le confesseur n'est attentif qu'à celui-là.
Mon maître, je vois que vous avez la tête corrompue et qu'à votre agonie, le diable pourrait bien se montrer à vous sous la même forme de parenthèse qu'à Ferragus.
Cela se peut, mais tu fus déniaisé, je gage, par quelque vieille impudique de ton village.
Ne gagez pas, vous perdriez.
Ce fut la servante de ton curé?
Ne gagez pas, vous perdriez encore.
Ce fut donc par sa nièce.
Sa nièce crevait d'humeur et de dévotion, deux qualités qui vont fort bien ensemble, mais qui ne me vont pas.
Pour cette fois, je crois que j'y suis.
Moi, je n'en crois rien. Un jour de foire ou de marché, ce n'était ni un jour de foire, ni un jour de marché.